44. 9h25. Le Sébastopol était un yacht de 30 mètres ayant appartenu à un milliardaire ukrainien, longtemps amarré à Monaco, et en vente depuis que l'homme d'affaires avait préféré investir dans une équipe de football bulgare. Prix d'achat, 2 500 000 euros, indiquait l'annonce sur plaisance.fr. Gavril Boukine était payé 70 euros par jour pour passer le jet d'eau pendant une heure, faire tourner le moteur, astiquer un peu la coque et les hublots, montrer le yacht aux éventuels acheteurs, avec une prime de 150 euros si l'acheteur voulait sortir en mer. Il fut étonné en découvrant les visiteurs du matin approcher. Un noir géant en jean, t-shirt taché et veste froissée, mal rasé, lacets de basket à peine noués, comme s'il sortait de tôle, accompagné d'un gnome cravaté, pâle comme une merde de laitier, et cheveux blancs impeccablement peignés. Laurel et Hardy, version black and white. Gavril leur fit faire le tour du propriétaire. Ils entrèrent à peine dans la salle des machines, la chambre froide, la cuisine, et s'arrêtèrent longtemps dans la grande salle de la cale, près de 80 mètres carrés. Le grand noir semblait multiplier les calculs mentaux, se tordant le cou vers le plafond comme pour en mesurer la hauteur afin de ne pas s'y cogner.
« Parfait. Vous pouvez nous laisser », finit par lui demander le black.
Gavril accepta sans broncher. Il remonta sur le pont, tout en gardant tout de même un œil sur Laurel et Hardy. Non pas qu'il avait envie de les espionner, il ne captait que des bribes de la conversation qu'ils échangeaient, mais les consignes étaient précises. On ne laisse pas des clients seuls dans le rafio tant qu'ils n'ont pas payé. Gavril avait pourtant du mal à imaginer ce qu'il y avait à voler dans cette coquille dont le proprio avait vidé tout le mobilier. Il s'accrocha au bastingage et observa les stratocumulus s'étirer jusqu'à se déliter en longs lambeaux qui le firent penser aux voiles d'un vaisseau fantôme. Le vent se levait, et il pria pour qu'il ne lui demande pas d'aller faire une balade en mer.
2,5 millions d'euros. C'est une somme considérable.
Un investissement, rectifia Alpha. Un bon investissement.
Pendant que son interlocuteur méditait, Alpha repensa à l'enchaînement des événements depuis ce matin. L'argentier avait été efficace. Il ignorait s'il était pour quelque chose dans sa sortie matinale de prison, mais dès qu'il avait été libéré, un taxi l'attendait sur le trottoir d'en face. Direction le port, en compagnie d'un type qui devait être l'équivalent de l'argentier, mais hors les murs. Max Olivier, un homme charmant, la cinquantaine blanchissante, exactement le genre de banquier que vous croisez lorsque vous faites le tour des guichets pour obtenir un prêt immobilier. Un gars compatissant, qui écoute avec attention vos besoins et vous explique avec précision les conséquences d'un endettement sur 30 ans. Le type compréhensif qui n'hésitera pas à vous rappeler dès que vous ne pourrez plus payer et serez à la rue.
Je vous avais prévenu.
Le banquier évaluait avec scepticisme la cale empoussiérée, les boiseries rongées par les toiles d'araignée.
Monsieur Mal, j'ai étudié en détail votre plan de financement et, pour tout vous avouer, j'ai encore des doutes.
Sa voix résonnait dans la vaste pièce sans meubles. Alpha haussa pourtant encore un peu le ton.
Vous connaissez aussi bien que moi les tarifs. Entre 3 000 et 5 000 euros par migrant pour les faire monter sur des zodiacs qui risquent à chaque minute de couler et qui seront immanquablement repérés par les gardes-côtes européens. 3 000 euros multipliés par 50 passagers entassés. Le calcul est rapide. 150 000 euros par bateau pneumatique, net d'impôts, pour une opération suicide. Ce que je propose, c'est un autre modèle économique.
Le banquier siffla entre ses dents.
Rien que ça.
Vous savez très bien ce dont je veux parler. Le marché des migrants est comme tous les autres marchés. Il fluctue en fonction de l'offre et de la demande. Mieux Frontex fait le boulot, moins il laisse passer de clandestins et plus les prix montent. Je ne vais pas vous apprendre votre boulot, Max Olivier. C'est la douane qui crée le contrebandier, pas l'inverse. C'est en interdisant l'alcool que les États-Unis ont fait la fortune des truands. Pas de prohibition, pas d'Al Capone.
Alpha était plutôt fier de sa formule. Il l'avait peaufinée pendant des semaines,
mais ça n'eut pas l'air d'impressionner le banquier.
« Je connais le business des frontières mal. On est d'accord. Tout le monde y gagne. Douaniers et contrebandiers. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment vous allez vous y prendre pour gagner davantage que les autres. »
Alpha marqua une pause, le temps de respirer. Cette immense coque de bateau prenait des allures de cathédrale. Je suis parti d'une idée toute simple. Offrir trois garanties aux migrants. La sécurité, le confort et la probabilité maximale de passer. C'est-à-dire tout ce que les passeurs traditionnels ne peuvent pas promettre. Pour ces trois garanties, je suis certain que beaucoup de migrants seraient prêts à payer cher. Beaucoup plus cher que le marché actuel.
Combien ?
10 000 ! 15 000 euros ! Imaginez. On embarque les migrants sur le yacht, un peu au large de l'Afrique, de nuit, loin des regards indiscrets. Ils descendent dans la cale. Avec quelques travaux d'aménagement, on peut installer ici une cinquantaine de lits, sans les tasser, des toilettes, des douches, de quoi boire et manger. Et sur le pont, au cas où passeraient des gardes-côtes, on plante quelques blondes en monokini, un serveur noir avec un plateau de mojito, un pilote baraqué et en pull marin. Aucun risque de couler ou de se faire arraisonner. Une fois accosté, dans n'importe quel port de plaisance européen, Ajaccio, Saint-Tropez ou San Remo, il suffit d'attendre la nuit, de recruter quelques types pour faire le guet, et les migrants disparaissent un par un comme des chats de gouttière. Ni vus, ni connus.
Une telle combine ne pourra pas rester secrète bien longtemps.
D'accord, mais calculez, Max Olivier. 15 000 euros par 50 passagers. Ça représente un chiffre d'affaires de 750 000 euros par croisière. Le yacht est remboursé en trois traversées.
15 000 euros par passager. Vous trouverez des migrants pour payer ?
Alpha s'enthousiasma. Le banquier n'avait aucun argument à lui opposer. « Vous avez lu le dossier ? » répondit-il en haussant encore la voix. « Vous avez lu les déclarations d'intention ? Ces familles maliennes, ivoiriennes, ghanéennes, qui sont prêtes à s'endetter davantage si on leur garantit le résultat. Je possède les réseaux de part et d'autre de la Méditerranée. J'ai l'idée, j'ai les hommes, j'ai le bateau. Il ne me manque que l'argent. » Le banquier marqua un long silence, baissa d'un ton, comme pour tempérer l'euphorie d'Alpha.
« C'est entendu, c'est votre idée. Ce sont vos réseaux. Mais si nous vous finançons, vous serez notre employé. Une franchise, si vous préférez, parfaitement indépendante, tant que vous nous remboursez. »
« Rassurez-vous, fanfaronna Alpha, je ne vous paierai pas en coquillage. » Le banquier lui adressa un sourire ambigu.
« Je vais être franc, Mal. Je ne suis pas certain qu'on puisse vous faire confiance. Vous êtes trop sûr de vous. Mon intuition me souffle que vous nous cachez quelque chose, mais votre dossier a été étudié et validé. Bravo. Mes prérogatives s'arrêtent là. Je vais faire le nécessaire pour que vous deveniez propriétaire de ce bateau avant la fin de la semaine. »
Le banquier remonta sur le pont et discuta pendant un bon quart d'heure avec l'homme chargé de l'entretien et de la visite du Sébastopol. Un type à la barbe pendouillante et aux cheveux clairsemés. Il lui manquait deux dents, son œil droit clignait en continu, et Alpha imagina qu'il économisait pour s'offrir une jambe en bois et un crochet de fer. Lorsque le banquier s'éloigna, Alpha s'approcha du pilote édenté. Il leva les yeux vers les vitres fumées et le toit ouvrant de la cabine de pilotage du Sébastopol. « Maintenant que tout est réglé, est-ce qu'on peut faire un petit essai ? »